avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Appel sur l'actualité, ce sera toujours avec Juan Gomez. Je rassure encore les auditeurs qui nous écrivent sur Facebook. Tout va bien pour Juan, il est tout simplement en vacances. Soyez les bienvenus chez vous, c'est votre émission chaque jour pour décrypter l'actualité et la commenter. Ainsi, dans une demi-heure, vous pourrez vous exprimer sur les opérations de décarpissement qui ont lieu en ce moment, entre autres à Bamako, au Mali, mais que l'on retrouve également et régulièrement dans d'autres grandes villes du continent. Les autorités ont décidé de faire déguerpir les commerçants de la rue installés, selon les autorités, de manière illégale. Faut-il faire disparaître le commerce informel pour rendre plus belle la ville? C'est en résumé la question que nous vous posons. Venez en débattre au standard 00339 693 693 70 ou sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission, sur notre mur d'expression libre. On parle donc dans une demi-heure de tout ça. Mais cette première partie d'appel sur l'actualité nous permet de prendre le temps de revenir sur des sujets que nous avons traités à l'antenne et qui vous ont interpellé, des sujets pour lesquels vous souhaitez plus d'explications. Nous sommes une radio de service public, nous sommes donc là pour vous répondre. Et on va commencer avec Ibrahim qui nous appelle de Louvain en Belgique. Bonjour Ibrahim. Ibrahim est-il là ?
Oui, je suis là. Bonjour Nicolas.
Bienvenue sur l'antenne Ibrahim. Alors vous avez une question qui concerne l'Afghanistan.
Oui, bien sûr Nicolas. Les attentats à la voiture piégée succèdent en Afghanistan, notamment celui perpétré près de la représentation diplomatique russe. Alors, Nicolas, est-ce que la ville de Kaboul est suffisamment sécurisée? Et peut-on parler d'une connexion entre Daesh et les talibans? Enfin, le gouvernement afghan pourra-t-il amener les talibans à la table de négociation?
Alors, c'est en effet une grosse attaque qu'ont mené les talibans. Un camion piégé lancé contre un hôtel. Un policier a été tué, 3 autres blessés, avant que les forces de l'ordre n'aient réussi à tuer les assaillants qui ont quand même eu le temps de pénétrer dans l'enceinte de l'hôtel. Yelena Tomic, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous êtes au service international de RFI. On peut en effet s'étonner, Yelena, que les terroristes aient réussi à aller aussi loin, alors que l'hôtel a déjà été visé en 2013, qu'il est censé être d'autant mieux protégé, qu'il abrite souvent des hôtes de marque ou des employés de sociétés de sécurité étrangères.
En fait, c'est tout simple. Il n'y a plus de sanctuaire en Afghanistan. Aucun lieu, y compris le centre de Kaboul, n'est désormais à l'abri d'une attaque des talibans, mais aussi de l'EI, qui représente depuis cette année une réelle menace. Selon un haut gradé américain, le général John Nicholson, 70% de ces combattants de l'EI en Afghanistan sont en fait issus du TTP, le Tehrik-e Taliban Pakistan. C'est la branche armée du mouvement taliban au Pakistan. Une partie de ces combattants ont fui, selon cette même source, la vaste offensive en cours de l'armée pakistanaise dans le nord-ouest du pays. Alors l'organisation a revendiqué l'une des attaques les plus meurtrières perpétrées sur le sol afghan depuis l'insurrection talibane en 2001. C'était en juillet dernier, souvenez-vous, 80 personnes ont été tuées et plus de 230 blessées dans 2 attentats suicides. C'était des civils de la minorité Hazara. Ces victimes viennent s'ajouter à une longue liste de plus de 5100 morts ou mutilés depuis le début de cette année, d'après un récent rapport de l'UNAMA. C'est la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Les Hazara appartiennent à la communauté chiite et sont accusés par Daesh de soutenir le régime syrien.
Justement, Yelena, et c'est une question que se pose Ibrahim, y a-t-il une alliance entre les talibans et le groupe État islamique qui, a priori, partage un objectif commun ?
Oui, alors d'abord, il faut se poser la question du niveau d'implantation de l'EI sur le sol afghan. Les estimations divergent selon les experts, car il est très difficile à mesurer. On parle de plusieurs milliers de combattants, environ 3000 qui auraient rejoint les rangs de Daesh depuis le début de 2015. Mais ce chiffre est en constante évolution, car les ralliements peuvent aussi changer pendant la saison des combats. Leur puissance de frappe reste en tout cas importante, puisqu'on l'a vu, des groupes ou des individus qui se revendiquent de l'EI sont capables aujourd'hui de perpétrer un attentat en plein cœur de Kaboul et de faire énormément de victimes. Alors les talibans et les djihadistes de Daesh ne sont pas amis, il y a plutôt une forme de concurrence entre eux. En juin l'an dernier, les talibans avaient même mis en garde l'EI contre toute tentative d'implantation dans leur pays. Et puis, il faut le rappeler, les causes pour lesquelles ces deux groupes combattent sont totalement différentes. Les talibans veulent chasser toute puissance étrangère du pays et l'EI veut étendre le califat autoproclamé au-delà de l'Irak et de la Syrie.
Ibrahim avait une dernière question. Dans ces conditions, est-ce que le gouvernement afghan peut ramener les talibans à la table des négociations? À première vue, Yelena, ça paraît compliqué.
Absolument, ce sera très difficile tant que les combats se poursuivent sur le terrain. Selon un rapport rapport de l'armée américaine depuis le départ des troupes combattantes de l'ISAF d'Afghanistan il y a un an et demi. Les forces de sécurité afghanes ont subi d'importantes pertes et ne contrôlent plus qu'à peu près 65% du territoire. De leur côté, les talibans ont étendu le contrôle dans plusieurs districts, infligeant de lourdes pertes à l'armée. Les discussions de paix sont dans la passe pour plusieurs raisons. Alors d'abord, il y a l'éternelle question du rôle que joue le Pakistan, accusé par Kaboul de servir de base arrière aux talibans. Les tentatives de négociation de paix à quatre, États-Unis, Chine, Pakistan et talibans, ont toutes échoué ces deux dernières années. La situation sécuritaire est au plus bas. Les États-Unis vont prolonger leur présence et intensifier les frappes aériennes. On voit mal comment, dans ce contexte, le gouvernement afghan peut jouer un rôle de pacificateur et inviter les talibans à négocier, surtout que son autorité n'est pas reconnue par les insurgés qui le considèrent comme un gouvernement fantoche et qui, avant toute discussion, exige, je cite, la fin de l'occupation américaine.
Ibrahim, est-ce que Yelena Tomic a répondu à toutes vos questions ?
Vous êtes très satisfait.
Merci à vous de nous avoir appelés. On va donc pouvoir accueillir tout de suite Isaac qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Isaac.
Bonjour Nicolas Brousse.
Merci
de me donner la parole.
Mais vous êtes là, nous sommes là pour ça. Et vous avez une question sur une nouvelle initiative qui vise à décourager les candidats à l'immigration clandestine.
Exactement. Le gouvernement italien a lancé une campagne pour dissuader les migrants africains de faire la traversée, souvent périlleuse, de la Méditerranée vers l'Europe. Quels sont les moyens et canaux de diffusion de cette campagne pour atteindre la cible ? Y a-t-il des initiatives similaires qui existent en Afrique ?
Nous allons poser ces questions à Anastasia Becchio. Bonjour Anastasia.
Bonjour Nicolas, bonjour Isaac, bonjour à tous.
Elle aussi du service international de RFI. Anastasia, pour toucher le plus de monde possible, le message emprunte les autoroutes de l'information ?
Exactement, les réseaux sociaux. Il s'agit de messages vidéo et audio qui sont disponibles sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et aussi sur un site dédié qui s'appelle awaremigrants.org, ce qui signifie migrants conscients. L'idée est aussi que ces témoignages en trois langues, en anglais, en arabe et en français, soient diffusés à la télévision et à la radio dans les pays africains visés pour toucher directement les personnes avant même qu'elles ne tentent d'entreprendre cette traversée périlleuse.
Il y a plusieurs langues. Est-ce qu'il y a plusieurs types de messages diffusés ?
Alors, il y a 80 témoignages d'hommes et de femmes. Ils y racontent, par exemple, leur expérience dramatique de la traversée en mer, comme Bright, 26 ans, qui explique: ceux qui nous transportaient ne se souciaient pas de nous, on ne pouvait pas bouger. Dans une barque aussi petite, il y avait des enfants, des gens tombaient à l'eau et mouraient. Et le message se termine par ce rappel. À ce jour, en 2016, 480 migrants ont perdu la vie chaque mois. D'autres racontent le calvaire qu'ils ont vécu avant de prendre la mer, comme cette jeune femme de 21 ans qui a été emprisonnée en Libye, puis vendue comme esclave à une femme dont le fils a menacé de la violer. Et son témoignage se termine aussi par un message. Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences sexuelles sur leur chemin pour rejoindre l'Europe. Il y en a d'autres qui confient leur regret aussi d'avoir quitté leur pays. Ce sont des témoignages très forts, dont le but est donc de toucher les éventuels candidats au départ vers l'Europe, de les décourager de prendre la route et de leur expliquer qu'ils risquent l'enlèvement, la détention, le viol, la torture ou bien évidemment la noyade en mer. D'autant que les autorités italiennes le rappellent très régulièrement, les migrants dits économiques ont vocation à être rapatriés chez eux.
Alors, c'est une initiative d'un pays d'accueil à destination des pays de départ, mais est-ce que des initiatives similaires existent en Afrique ?
Alors, pour ce qui est des initiatives en Afrique même, il n'existe pas à ce jour de gros projets initiés par les autorités au plan national. Des radios communautaires abordent le sujet très régulièrement, c'est un thème qui fait débat, qui est largement commenté. Alors, il y a des événements plus ou moins ponctuels, mais l'initiative en revient le plus souvent à l'Europe. En février dernier, par exemple, en Érythrée, la délégation de l'Union européenne a organisé des projections d'un film réalisé par des cinéastes érythréens. Cela s'est fait en coopération avec l'Union nationale des étudiants érythréens. Et ce film raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui partent au Soudan pour traverser le désert, tenter de gagner l'Europe dans des conditions là aussi très, très délicates. L'idée étant toujours de montrer les dangers de cette immigration qu'on dit illégale. Dans le cas précis de la campagne Migrants conscients, qui est donc aussi destinée à être diffusée dans les médias africains, à la télévision, à la radio, elle a été élaborée conjointement par le ministère italien de l'Intérieur et par le bureau de coordination de l'Organisation internationale pour l'immigration pour la Méditerranée, qui a son siège à Rome. Elle est financée par le gouvernement italien à hauteur d'1,5 million d'euros. Et l'artiste malienne Rokia Traoré, d'ailleurs, travaille sur la chanson officielle de cette campagne. Une chanson qui sera intitulée en anglais « Sois conscient, frère, sois consciente, sœur ».
Alors, comme le phénomène migratoire n'est pas prêt de disparaître, est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui pourraient voir le jour prochainement ?
Alors, de telles initiatives devraient être amenées à se multiplier, d'autant que l'Europe cherche par tous les moyens à stopper les flux d'immigration. C'est aussi ce qui avait été décidé lors du sommet Union européenne-Afrique à La Valette en novembre dernier. Dans leur plan d'action, les participants, c'est-à-dire les chefs d'État africains et les 28 Européens, s'étaient entre autres engagés à organiser des campagnes d'information dans les pays d'origine, de transit et de destination pour sensibiliser le grand public au danger de la traite des êtres humains et du trafic des migrants, y compris au moyen de programmes des services publics de radiodiffusion. C'est comme ça que c'est formulé dans le document. Et les pays signataires s'étaient engagés à mettre en œuvre de telles campagnes avant la fin de cette année 2016.
Anastasia Becchio qui répondait aux questions d'Isaac. Merci Anastasia d'être venue. Merci Isaac à vous d'avoir appelé. Le meilleur moyen pour dissuader les tentatives d'immigration illégale, c'est encore de proposer à ses habitants un pays qui fonctionne. Dans le cas du Soudan du Sud, tout jeune État, on est encore loin de la réussite. Le Soudan du Sud, dont la situation vous interpelle. Colin, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous nous appelez de Kinshasa, on écoute vos questions.
Ok, Antoine Gomez, je vous salue et je profite pour saluer tous les auditeurs de RFI et de Appel sur l'actualité.
Alors,
préoccupation est celle-ci. La semaine dernière, le président du Soudan du Sud vient de nommer son premier ministre à la place de Riek Machir. Alors, pour moi, pour autant, mettre les deux hommes d'affaires, deux hommes politiques autour d'une table pour espérer un accord de paix. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir quelles sont les conséquences entre le groupe rebelle au Soudan du Sud.
Colin, on va vous répondre avec Léonard Vincent du service Afrique de RFI. Bonjour Léonard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors c'est vrai que les relations entre Salva Kiir et son rival Riek Machar sont toujours aussi compliquées. Quelles conséquences cette nomination peut-elle avoir sur les conflits entre groupes rebelles au Soudan du Sud ?
Oui Nicolas, d'abord une petite précision, ce ne sont plus des groupes rebelles mais un gouvernement d'anciens rebelles mais un gouvernement reconnu par l'ONU. Maintenant la question c'est bien celle que tout le monde se pose, la situation est bloquée, alors qu'est-ce qui pourrait permettre d'avancer? Deux choses, comme d'habitude, la diplomatie ou la guerre. Alors, côté diplomatique, toute la question est aujourd'hui de savoir si les partenaires du Soudan du Sud, particulièrement l'ONU et l'IGAD, qui est l'organisation régionale qui parraine le processus de paix, vont reconnaître la légitimité de la nouvelle équipe dirigeante. C'est la grande bataille politique d'aujourd'hui. Le général Tabandengai, le nouveau premier vice-président, est-il, oui ou non, le premier vice-président légitime du Soudan du Sud, ou est-ce que c'est toujours Riek Machar? Pour l'instant, ni l'ONU ni l'IGAD n'ont été très clairs sur le sujet. Un porte-parole de l'ONU a simplement, laconiquement, façon ONU, fait savoir que les nominations politiques devaient respecter les termes de l'accord de paix, sous-entendant que la nomination de Tabandengai pourrait ne pas les respecter. Pour Riek Machar, cette nomination est illégale, mais de son côté, le président Salva Kiir n'en démord pas. Il a même nommé Tabandengai pour conduire la délégation du Soudan du Sud à l'Assemblée générale de l'ONU à New York le mois prochain.
Alors Léonard, si on joue à fond la carte diplomatique, il faudrait savoir quelle est la position des pays de la région.
Oui, c'est une bonne question parce que les pays de la région jouent un rôle crucial depuis le début de cette affaire. L'Éthiopie, d'abord, qui a accueilli l'exil de Riek Machar et de ses hommes, et l'Ouganda, dont les troupes sont venues à la rescousse de Salva Kiir en 2013, lorsque la guerre a éclaté entre les anciens frères d'armes. Et puis le Soudan du Nord, on pourrait dire, dont on dit qu'il soutient discrètement Riek Machar. Alors pour l'instant, aucun de ces pays ne s'est exprimé publiquement sur le sujet, mais évidemment des tractations diplomatiques intenses ont lieu actuellement sur la base de ce dilemme pour essayer d'inventer une issue politique.
Donc on espère que de la discussion jaillira la lumière, mais Léonard, la guerre reste quand même une option.
Oui, et tout le monde garde bien sûr cette possibilité en tête avec les conséquences désastreuses qu'on peut imaginer. Il ne faut pas oublier que Salva Kiir comme Riek Machar sont des chefs de guerre, des guerriers qui ont passé leur vie dans le maquis. Ils ont derrière eux des soldats, des officiers, pompiers, des armes et des territoires. Mais, ils ont aussi une population épuisée par les violences et les crimes atroces commis ces dernières années qui seront difficiles à pardonner. Bref, rien ne dit que le vainqueur d'une nouvelle guerre pourrait gouverner un pays qui s'effondre méthodiquement. Alors pour l'instant, même si on signale que des combats entre factions ont lieu dans certaines provinces, chacun privilégie encore l'option diplomatique.
Dans ce contexte, est-ce que l'ancien vice-président Riek Machar pourrait revenir quand même à Juba ?
Alors il dit le vouloir, mais à une seule condition, qu'une force d'interposition soit envoyée dans la capitale. Cette force d'interposition, ce n'est pas son idée, mais une annonce du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali mi-juillet. Mais pour l'instant, devant le refus de Salva Kiir, ce n'est encore qu'un projet. Les dirigeants de l'Union africaine n'ont pas dit ni comment ni quand cette force pourrait intervenir pour séparer les belligérants.
Donc si on résume, là aussi c'est le blocage.
Oui, et un blocage très dangereux depuis son départ précipité. Riek Machar a fait le compte de ses troupes, des milices et des factions qui lui sont restées loyales. En bref, il a rassemblé son armée. Le porte-parole de Riek Machar affirme d'ailleurs que ses troupes encerclent Djouba et n'attendent que le feu vert de leur chef pour prendre la capitale. Alors bien sûr, ces allégations sont impossibles à vérifier pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que les réfugiés qui fuient vers l'Ouganda voisin parlent bien de combats et de pillages, mais aussi d'enrôlement de forces un peu partout dans le pays. Vous le voyez, Nicolas, la guerre continue discrètement.
Léonard Vincent du service Afrique de RFI. Colin, est-ce qu'on a bien répondu à toutes vos questions ?
Oui, on a très bien répondu. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir appelés. Merci de rester fidèles à Radio France Internationale. Il est 10h26 ici à Paris, 8h26 en temps universel. On va donc, sans plus attendre, ouvrir le débat du jour. On va parler du déguerpissement, ainsi appelé ces opérations villes propres qui visent à faire disparaître les commerces jugés illégaux par les autorités en tout cas et qui sont à même la rue ou le trottoir. Un commerce souvent informel qui pour certains est un véritable service de proximité, mais pour d'autres autant de verrues sur les artères des villes. Ainsi, depuis la semaine dernière, une opération bulldozer est en cours à Bamako, au Mali, mais ce type d'opération se déroule aussi régulièrement dans d'autres villes du continent, entre autres à Lagos au Nigeria, à Addis Abeba en Éthiopie, où la dernière opération en date a d'ailleurs suscité la violence. 2 policiers ont été tués. En ce moment même, également, une opération se déroule à Abidjan, en prélude à la Semaine nationale de la salubrité. Vous nous avez d'ailleurs appelé d'Abidjan. On va vous entendre dans quelques minutes. Ces derniers jours, donc, à Bamako, des centaines de kiosques et étals ont été démolie sous les ordres de Madame la gouverneure de Bamako, récemment nommée, qui veut donc nettoyer sa ville. Peut-être bien d'ailleurs parce que la capitale malienne accueillera dans quelques mois le sommet Afrique-France. L'opération a donné lieu à des échauffourées qui ont fait plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre et les commerçants. Pour alimenter le débat, je vous signale que Ami Khan, la gouverneure, est l'invitée aujourd'hui de la rédaction Bande un camp de RFI à midi temps universel. En attendant donc, c'est vous que nous avons envie d'entendre. 33 9 693 693 70. Nous avons envie de vous lire sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook d'appel sur l'actualité, comme Souleymane qui fait le lien entre cette opération bulldozer et le prochain sommet Afrique-France dans un pays, dit-il, qui vit pourtant grandement de l'informel. Sur le principe, pas de problème, nous écrit Souleymane, mais par-delà les kiosques et autres étalages, il y a des vies et des familles. Le candidat IBK avait promis de créer 200 000 emplois. À défaut de créer ces emplois, il détruit ceux créés par la population. Mamadou est à Bamako. Bonjour Mamadou.
Bonjour Nicolas.
Alors vous êtes d'accord avec ce que nous écrit Souleymane, un véritable problème, on manque d'emplois à Bamako et dans le Mali ?
Non, sous cet angle, je n'aborderai pas la question. Je l'ai déjà expliqué, j'ai dit sur le fond, l'opération est plus qu'une nécessité aujourd'hui dans Bamako parce que c'est vrai que les trottoirs sont occupés par les marchands, obligeant du coup les piétons et leurs propres clients à se trouver sur la chaussée principale avec les voitures. Et ceci avec tous les risques encourus parce qu'il y a les risques d'accident. Mais nous disons que dans la forme, le gouvernement, le district de Bamako aurait pu faire mieux, quoi, en mieux préparant l'opération notamment, et surtout en prenant des mesures d'accompagnement qui auraient évité de laisser les marchands dans la rue. Parce que une chose est de les déguerpir, mais il ne faut pas qu'ils reviennent dans 6 mois.
Donc il faut leur offrir un avenir à ces vendeurs ambulants.
Absolument, absolument. Et moi, je pense qu'il faut, dans chacune des 6 communes de Bamako, il faudrait identifier des espaces pour permettre aux déguerpis, qui sont eux-mêmes recensés, pour les permettre
de travailler légalement. Merci Mamadou d'avoir ouvert le débat. On revient dans 30 secondes juste après le journal.
Ça va, ça va,
ça va, ça va, ça va.